Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 1er mars 1821, la Vénus de Milo arrive à Paris. En février 1820, Yorgos, paysan grec de l'île de Milo dans les Cyclades, bêche son champ quand son outil heurte une pierre. Il veut reprendre son labeur quelques pas plus loin, mais il est à nouveau arrêté par le même obstacle. Ayant déblayé le sol, il aperçoit à 5 ou 6 pieds de profondeur une sorte de niche oblongue dont la taille l'étonne. Sa curiosité éveillée, il continue à gratter le terrain. Il découvre pêle-mêle des fragments de statues, le buste d'une femme, plusieurs petits Hermès, ainsi que d'autres morceaux de marbre noir de saleté. Il transporte ces blocs chez lui et les cache dans son étable. Là, il les nettoie avec soin. Revenu sur les lieux quelques jours plus tard, il reprend ses recherches et met à jour la partie inférieure de la statue féminine, ainsi que d'autres fragments sculptés. Il ne peut conserver son secret et, bien évidemment, la nouvelle s'ébruite. Plusieurs navires de guerre français mouillent en rade de Milo. L'enseigne de vaisseau Jules Dumont-Durville, qui se trouve à bord de la Chevrette, avec mission d'effectuer des recherches hydrographiques en mer Noire, entend parler des découvertes de l'agriculteur. Il se rend chez lui et est frappé par la beauté des marbres. Il reste surtout en contemplation devant les 2 fragments de la statue féminine. Assurément, il s'agit d'une étonnante Vénus. Il en crayonne une esquisse et engage les autorités consulaires françaises à se porter acquéreurs de ce joyau de l'Antiquité. La Chevrette lève l'ancre, passant par Constantinople, Dumont-Durville entre en contact avec l'ambassadeur de France. Il lui montre son dessin ainsi que la copie d'une inscription trouvée sur un des socles déterrés avec la statue. L'ambassadeur est convaincu. Il donne au jeune secrétaire d'ambassade l'Odysse de Martin de Tillac de Marcellus des lettres de recommandation pour les autorités de Milo. Arrivant sur place, Marcellus voit des manœuvres embarquer les blocs antiques à bord d'un vaisseau grec arborant pavillon ottoman. Il demande au commandant du navire français l'estafette d'empêcher le départ du bâtiment grec. Puis il descend à terre et monte en direction du village de Castro, où réside Yorgos. Un moine grec accusé de malversation a enlevé la Vénus et les autres marbres des mains de leurs propriétaires, ne le payant que de belles promesses. Plus grave, il les a transportés sans aucune précaution. Les œuvres subissent de sérieuses dégradations. Marcellus tente sans succès de négocier avec les autorités locales. Embarqué à bord d'une chaloupe, il met le cap vers le navire grec. Au moment où il arrive à sa hauteur, il aperçoit un homme courant sur le rivage. C'est le moine qui tente d'interdire au capitaine, un Albanais, de laisser monter quiconque à bord. Obéissant à cet ordre, les matelots saisissent leurs fusils et mettent les Français en joue. Le lendemain matin, Marcellus regagne Castro et entame de nouvelles négociations. Les autorités grecques acceptent de conclure le marché proposé par le Français. Marcellus paye à Yorgos le prix fixé par l'acquéreur initial en augmentant la somme d'un tiers. Le soir même, les marbres sont transférés sur le bateau français. Marcellus contemple la déesse. Je la vis enfin. Sa vue me dédommagea de tous mes ennuis et mon enthousiasme surpassa celui de mes compagnons de voyage. Je la nommai Vénus Anadyomène, sortant des eaux, puisque je venais en quelque sorte de l'arracher à la mer. Vénus Vitrix, victorieuse, car à mon jugement, elle l'emportait sur toutes ses rivales. Je lui récitais des vers d'Homère, je ne pouvais me lasser de contempler cette beauté surhumaine, cette majesté douce, cette taille vraiment divine. La merveille grecque se promène de port en port. Elle est admirée à Rhodes, Chypre, Alexandrie et au Pirée avant de gagner Smyrne, où elle est transférée à bord de la Lionne. Charles-François Riffardeau de Rivière, ambassadeur de France à Constantinople, transfère en France ses précieux trésors. Le 1er mars 1821, il présente la Vénus de Milo à Louis XVIII. Bon connaisseur des antiquités, le souverain apprécie sa valeur et sa beauté. Cependant, à son arrivée à Paris, le marbre est coupé en deux morceaux à la hauteur de la draperie de la ceinture. Un tenon de fer qui réunissait les deux parties n'a pas été retrouvé lors des fouilles archéologiques. En outre, la chevelure tout entière est détachée de la tête, mais bien conservée et d'une grande élégance, précise Marcellus. Quant au bras, il n'existait déjà plus. Les restaurateurs du musée du Louvre s'emploient à remettre en place les différents éléments. Dans « Souvenirs de l'Orient », Marcellus relate les projets de restauration proposés par les archéologues et heureusement non réalisés. Quelques dessins de poses qu'on cherchait à retrouver avaient été soumis au roi. On avait même tenté de rajuster aux épaules de la statue deux bras et une main tenant une pomme que j'avais également rapportée. Mais il était facile de reconnaître que ces bras informes n'avaient pu appartenir à la Vénus que dans un premier et grossier essai de restauration attribué aux chrétiens du XVIIIe siècle. Louis XVIII, appréciateur si éclairé de l'art antique, jugea toute restauration indigne de cette magnifique statue. Pendant près d'un demi-siècle, la déesse mutilée reçoit au Louvre les hommages soutenus de nombreux admirateurs. En 1870, au moment de la guerre franco-prussienne, la Vénus est enfermée dans une caisse que quelques gardiens transportent en grand secret dans une cave de la préfecture de police dont la porte est murée. Pour brouiller les pistes, une seconde cachette est aménagée en avant de la première. Des archives y sont entassées et un second mur est érigé. Il est noirci et barbouillé de toiles d'araignée. Tant de mystères faillirent causer la perte du précieux marbre antique. Durant la Commune, un incendie éclate à la préfecture de police. Le bâtiment est la proie des flammes. La toiture s'effondre. Le feu gagne le sous-sol. Par un miraculeux hasard, une conduite d'eau se rompt dans la cave et préserve la caisse que les voûtes profondes garantissent de l'écroulement des murs. Sauvée des bombes, du feu et de l'eau, la Vénus de Milo reprend sa place d'honneur au Louvre. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver Emmanuel pour sa chronique littéraire « Un jour, trois livres ». Je pense que c'est quatre exceptionnellement. Aujourd'hui, nous allons écouter Georges Frédéric Händel, un extrait du Messie. Alléluia.
Thank you.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. C'est le moment de la chronique littéraire présentée par Emmanuel. Ce ne sera pas trois, mais exceptionnellement quatre livres qui vous sont présentés aujourd'hui. Et nous commençons avec Le procès de Spinoza, livre publié aux éditions Albin Michel, dont l'auteur est Jacques Chécroun.
À Amsterdam, en 1656, la synagogue de la communauté hispano-portugaise est transformée en tribunal. Un très jeune homme y est jugé pour hérésie et il va risquer un bannissement à vie. Comment celui en qui tous voyaient un futur rabbin en est-il arrivé là? Quelles rencontres ont-ils pu le détourner d'une voie toute tracée? Quel cheminement a été le sien pour passer d'un Dieu qui punit à un Dieu qui, ayant tout et étant tout, ne demande rien? L'auteur imagine les événements qui marquèrent un tournant dans la vie de Spinoza, soulignant sa modernité de pensée et la question de la liberté d'expression toujours prégnante.
Le procès de Spinoza, c'est signé Jacques Chécroun et c'est publié aux éditions Albin Michel. Tous les amis sont là, d'Alain Dulot, aux éditions La Table Ronde.
Le 8 janvier 1896, au 39 rue Descartes, Paul Verlaine décède à l'âge de 51 ans. Le 10 janvier au matin, la foule parisienne est là, composée des proches de Verlaine, de curieux, de bourgeois et de pauvres, de jeunes et de vieux. Bref, toutes les couches de la population parisienne sont là. Et tous vont s'écarter pour faire passer le corbillard et en cortège se rendent tous jusqu'au cimetière de Batignolles. L'auteur suit le cortège et parle au poète. Il évoque sa mère Elisa, ses amis, la société littéraire qui l'entoure, ses amours tumultueuses avec Mathilde Mottet, Arthur Rimbaud, Philomène Boudin et Eugénie Krantz. Sa faiblesse pour l'absinthe, ses séjours dans les tavernes et les cabarets, mais aussi dans les hospices et les prisons. Mais surtout, bien sûr, sa passion pour la poésie.
Tous tes amis sont là, c'est signé Alain Dulot et c'est publié aux éditions La Table Ronde. Le jardin secret de Violette de Liliane Mosca dans la collection Terre de France aux éditions Presse de la Cité.
En 1885, pour subvenir aux besoins de son foyer, la jeune Violette est contrainte de quitter son nourrisson et son mari sans travail pour partir en nourriture. Et cela à Paris. Elle est nourrice. Or, les nourrices morvandelles sont très prisées à Paris. Son mari, Bertin, est là de la vie itinérante d'un ouvrier agricole, se louant des mois durant. Il souhaite rester dans sa masure et il peine à trouver de l'ouvrage. La voici devant se rendre à Paris et là, la chance va lui sourire.
Le jardin secret de Violette de Liliane Mosca, c'est dans la collection Terre de France, aux presses de la Cité. Et pour terminer cette chronique et par là même cette émission Historama, Herr Gebel de Jean-Baptiste Lantéric aux éditions Bellefond.
Voici un roman mêlant fiction et réalité. Dévasté par la mort de son épouse, Carole Lombard, Clark Gebel décide de s'enrôler dans l'US Air Force. Sitôt sa formation d'artilleur aérien achevée, il embarque pour l'Angleterre. À bord d'un B-17, il participe à des missions de bombardement au-dessus de l'Allemagne nazie et de la France occupée. Adolf Hitler, grand cinéphile, ordonne de capturer l'acteur Keva Braun et lui vénère. Cette mission hors norme est confiée au capitaine Florian Walter, l'un des meilleurs tireurs d'élite de la Wehrmacht.
Et rappelons que Carole Lombard est décédée dans un terrible accident aérien. Herr Gebel, c'est signé Jean-Baptiste Lantéric, c'est publié aux éditions Bellefond. Emmanuel, merci beaucoup pour cette chronique littéraire. Merci également à Lucas qui a réalisé cette émission et nous nous séparons en musique avec Georges Frédéric Händel. Nous écoutons un extrait de la Water Music.
Thank you.